voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Lionel Gougelot.
10h41 sur Europe 1 Sud, du débat des grandes voix avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou. Dans cette campagne présidentielle, l'une des images fortes de la semaine restera ces face-à-face entre Emmanuel Macron et ses opposants au Parlement européen de Strasbourg. Des opposants qui ont littéralement pilonné le président de la République dans un hémicycle européen relégué au second plan. À commencer par la nouvelle présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola. J'ai une question pour vous, les grandes voix. Est-ce qu'elle va faire mal, cette image d'un Emmanuel Macron, peut-être acculé, ou au contraire qui fait face, Gérard Carrérou ?
Elle va pas faire du bien, peut-être, mais bon, faire mal, je crois pas. Simplement, c'est un peu le sketch de l'arroseur arrosé. Parce qu'on avait reproché, certains ont reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir passé son tour pour la présidence européenne, oui, en disant certains l'avaient fait, il aurait parfaitement pu la déplacer avant ou après. Après, c'est plus difficile, mais en tout cas avant. Et il ne l'a pas fait, il a voulu utiliser l'Europe comme un levier, oui, pour ses propositions, oui, de campagne. Et il va le faire. Oui. Alors, est-ce que du coup, ça l'a affaibli de se trouver interpellé ? Non, l'image qui frappait les Français, sans doute, ceux qui ont regardé, il y a quand même toutes les chaînes info en direct, mm-hmm, ça fait quand même ça fait quelques millions de gens, c'est l'image à 3 mètres, 2 mètres 50, oui, de quelqu'un, mm, qui se fait brutalement interpeller, mm, à 3 reprises, par Bardella, par Jadot, mmh, et par Madame Aubry, de chez Mélenchon. Aubry, hein. Et les trois ont été très durs, mais c'est les gens qui aiment le parlementarisme et qui vont parfois à l'étranger. Si vous allez à la Chambre des communes à Londres,
oui,
ou si vous allez au Bundestag, ouais, vous avez ça tous les jours. Européen, ouais. Mais nous, on a perdu l'habitude parce qu'on n'est pas une démocratie, exact, parlementaire. On est une démocratie présidentielle, donc on ne fait plus jamais ça. Et le président ne peut pas, de toute façon, puisque c'est interdit par la Constitution.
Catherine Ney.
Bon, essayez-moi des choses à plat. Bon, le président venait faire son discours d'entrée de la présidence de l'Union européenne. Bon, son discours introductif, selon moi, a manqué de souffle. C'était bien, c'était voilà, mais c'était sans lyrisme. C'était plutôt on était déçus quand on se rappelle, Sarkozy, il faut le dire, celui de Nicolas Sarkozy, il y a 13 ans, qui avait parlé pendant une heure, sans notes. Les gens le regardaient, ils étaient ébahis par le talent, hein, par le souffle. Tout le monde voulait être européen, c'était la famille, c'était un discours formidable. Bon, après quoi, il y a eu les intervenants. Bon, Jadot, Marion Aubry, les autres, enfin tous, avaient 3 minutes pour parler.
Oui. Bon.
Et dans ces 3 minutes, moi, je pense que celui qui a le plus marqué, selon moi, l'image, c'était Jadot.
Oui.
Parce que d'abord, à cause de sa taille, et c'était vraiment le matador qui voulait tuer le taureau. C'était le taureau qui voulait tuer le matador. Il était dans un état et on regardait le président comme ça. Et c'est ça qui a marqué, vous voyez. Bon. Mais ça a duré que 3 minutes. Il y a eu 14 Français qui sont intervenus et 4 qui étaient dans l'opposition et dans la campagne. Mais c'était peu, vous voyez.
Ça n'a duré que 3 minutes, Michel Cotta. Mais enfin, n'empêche que l'image était forte.
Oui. Ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment, franchement, Yves Jadot, ça m'a fait quand même rigoler qu'il soit tellement aplati dans cette campagne. Il n'a pas marqué un point, il plafonne à 7%, il est toujours embêté par Sandrine Rousseau. Là, on a l'impression que d'un coup, il a eu toute l'énergie qui lui manquait pendant la campagne. Ouais. Donc, c'est assez drôle.
Charles Villeneuve.
Oui, moi, je trouve surtout, si vous voulez, que les autres pays européens, oui, et l'opinion publique européenne, il n'y a qu'à lire la presse européenne, oui, au lendemain de cette image forte, ce que vous avez dit.
Oui,
c'est vrai qu'elle était forte sur ce plan-là. Et quand même, les gens ont eu le sentiment de se retrouver dans l'arrière-basse-cour gauloise,
oui, d'un combat nuances
de coq. C'est pas vrai. En tout cas, je parle de la presse européenne. Oui. La presse européenne a quand même s'est élevée contre le fait que c'était devenu un débat français, électoral.
On a oublié quand même pour eux.
Bon, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je trouve que moi je ne suis pas d'accord avec l'image de Jadot, etc. Je trouve que ni Jadot, ni Bardella du Rassemblement National, ni Manon Aubry ne se sont élevés à la hauteur des enjeux européens.
Ouais, je trouve que personne, personne ne s'est enlevé aux enjeux européens.
Je suis d'accord avec Gérard quand il dit qu'il serait bon d'autoriser un chef d'État candidat à sa réélection dans son propre pays à présider l'Union européenne. Je trouve qu'il faudrait l'inviter à passer son tour.
Michel Cotta.
Alors, ça, il n'a pas voulu passer son tour parce qu'on sent quand même que en dehors de cette première séance, c'est sur l'Europe aussi que Macron essaiera de cliver les Français. Il y aura les Européens et les autres, mais ça échappe aux partis politiques. C'est-à-dire que ça maintient sa matière, sa mainmise sur... Je suis en même temps, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, puisqu'il y a des gens de gauche qui sont avec moi, des gens de droite qui sont avec moi sur l'Europe. Donc quand même, il va jouer sur l'Europe.
Il y aura les
bons
progressistes et les méchants passéistes, les bons européens et les méchants souverainistes.
Alors, la question, c'est est-ce que s'il a décidé de ne pas reporter la date, c'est qu'il pense en tirer un avantage. Donc il va y avoir un Conseil européen les 24 et 25 mars où tous les Européens viendront, où là, Emmanuel Macron fera un premier bilan de ces deux premiers mois, ou des trois premiers mois, ce qui sera assez court. Alors, est-ce qu'il pourra en tirer un avantage et dire pendant la campagne, voilà tout ce que j'ai obtenu, parce que les choses qu'il a obtenues, elles sont négociées, c'est des choses qui sont dans les tuyaux depuis longtemps. Mais vous voyez bien qu'on sera à mi-chemin, puisque quel que soit les résultats, lui ou un adversaire, il y a un nouveau Conseil européen le 30 juin.
Gérard Carrérou, oui.
Sans lui ou avec lui,
oui. Gérard.
Oui, mais il ne se passera pas grand-chose. Je veux dire, tout le monde sait qu'on ne peut pas, quelques mois faire avancer à 27. C'est ça d'ailleurs le drame de l'Europe, entre autres drames. C'est qu'on ne peut pas faire avancer. Par exemple, on l'attend sur Schengen, la réforme annoncée depuis des années, on en parle, la réforme de Schengen, c'est-à-dire la façon de contrôler l'Europe aux frontières, etc. Vous pensez sérieusement qu'il peut arriver quelque chose dans les trois mois qui viennent? Évidemment non.
Il peut y avoir une direction, il peut y avoir une direction prise.
Il y aura des propos, il y aura une direction, mais en tout cas, c'est pas là qu'on marquera. Je ne pense pas que c'est là qu'il marquera des points.
Ça va faire partie de son discours de campagne, tout simplement.
Ça fera partie de ça. Effectivement, c'est un de ses éléments forts de campagne. Il est, lui, Macron, l'Européen, contre un certain nombre d'autres qui sont dans d'autres nuances et qui sont beaucoup moins européens.
Qui sont dans d'autres nuances, mais dont plus aucun ne veut quitter l'Europe.
Mais personne conteste l'Europe. Donc, oui, absolument. C'est la différence.
Il y a quand même quelques années, on entendait le Brexit. Oui. Hein, Marine Le Pen dit le Brexit, c'est formidable. Plus personne parle du Brexit.
Absolument.
Donc il y a quand même... Il parle d'Europe devant des gens qui n'osent pas dire qu'ils ne sont pas européens. Donc c'est plutôt à son avantage.
Il nous reste 10 minutes d'émission, restez avec nous, on va faire une nouvelle pause suite et fin du débat des grandes voix avec votre éclairage, les grandes voix sur la crise ukrainienne et les relents de guerre froide entre les USA et la Russie. À tout de suite.